Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la Syrie. Après les révolutions tunisiennes et égyptiennes, après la guerre en Libye contre le colonel Kadhafi, toute l'attention est désormais portée vers le régime de Bachar el-Assad. Regard sur les enjeux internes, régionaux et internationaux que pose la question syrienne avec cette certitude. Si la famille Assad tombe, c'est tout le Moyen-Orient qui se verra transformé. Nos invités, ils sont trois. Agnès Levallois, journaliste indépendante, bonjour.
Bonjour.
Mohamed Maklouf, journaliste écrivain, bonjour.
Bonjour.
Et Salam Kawakibi, chercheur à l'Arab Reform Initiative. Bonjour.
Bonjour.
Cette semaine a été marquée par l'acceptation par le pouvoir syrien d'un plan arabe de sortie de crise qui prévoit un arrêt total des violences, la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la répression, le départ de l'armée des villes et la libre circulation des observateurs et médias internationaux avant l'ouverture d'un dialogue entre le régime et l'opposition. La violence n'a pas cessé pour autant. Que vous inspire l'attitude du régime syrien et que sait-on exactement de ce qui se passe, Agnès Levallois?
Alors c'est vrai que ce plan a suscité quelque espoir chez certains en tous les cas. Maintenant reste à définir ce qu'il en est réellement et quelle va être l'attitude de pouvoir face à ce plan. On a tout de suite vu dès l'annonce de ce plan que la violence n'a pas cessé pour autant. Donc il y a une première réaction, de mon point de vue en tous les cas, d'inquiétude sur la suite du processus. Inquiétude dans le sens où on a toujours remarqué que ce régime avait une particularité qui est celle de gagner du temps. Et c'est vraiment une stratégie qu'on observe maintenant, dire même depuis des décennies, ça n'est pas récent et ça n'est pas spécifique au régime de Bachar el-Assad. Son père déjà, Hafez el-Assad, était dans cette même logique. Donc j'ai le sentiment aujourd'hui que face à un certain nombre de pressions qui commençaient à s'exercer sérieusement sur le régime de Bachar el-Assad, celui-ci a accepté ce plan élaboré par la Ligue arabe pour gagner du temps et pour essayer justement de se sortir encore une fois de cette situation. Donc ma première réaction est une réaction d'extrême prudence, pour ne pas dire d'incrédulité totale par rapport à cette réaction du pouvoir.
Vous partagez, Mohamed Maklouf, ce que vient de dire Agnès Levallois?
La prudence, comme elle dit Madame Levallois, alors c'est une vertu, à vrai dire, surtout lorsque le régime concerné est comme le régime syrien, il faut le dire. Mais moi, je me pose des questions, franchement. Je trouve que c'est très important d'expliquer, de prendre un peu de distance de la décision du gouvernement syrien, du régime syrien, d'accepter l'initiative arabe. À mon avis, c'est beaucoup plus que gagner le temps. Il y a quelque chose, quelque part, pour deux choses seulement. Bachar el-Assad, il y a 6 mois, il a refusé tout contact avec l'opposition. Il y a 1 mois, il a refusé l'initiative arabe complètement. Une journée avant l'acceptation, il a menacé la région tout entière d'embrasement, de séisme, de tremblement de terre. Et tout d'un coup, il a accepté. Il est important d'y réfléchir un petit peu.
Alors, Salam Kawakibi, votre réflexion vous porte dans quelle direction?
Je partage les deux réactions. Je les trouve pas contradictoires parce que je crois aussi que le régime joue avec le temps, mais en même temps, il y a eu des pressions de nature assez forte de la part des pays qui l'ont contacté. Et notamment, je pense pas du tout à la Ligue arabe, parce que la Ligue arabe, c'est une coquille vide, par rapport à ses alliés qui veulent se débarrasser de ce corvée et de se débarrasser de l'obligation de défendre l'indéfendable.
À qui pensez-vous ?
C'est-à-dire la Russie et la Chine et même l'Iran. Quand on entend le président iranien appeler le président syrien à négocier avec l'opposition et cesser la violence, je trouve cette phrase plus forte même que la première phrase dans l'accord de la Ligue arabe qui demande aux deux parties de cesser la violence. Et je trouve ça choquant parce que la Ligue arabe considère que les deux parties sont au même niveau. Le represseur et la victime. Bien entendu, ce qui manque aussi à ce plan, une chose très très importante, c'est un mécanisme de suivi. On n'a pas parlé de mécanisme de suivi. Ils ont parlé de laisser les observateurs de la Ligue arabe et n'ont pas parlé des observateurs internationaux. Nuance. Parce que la Ligue arabe, c'est un organisme régional où des régimes peu démocratiques sont représentés par des ambassadeurs. Et la Ligue arabe, si elle essaie de trouver une solution médiane entre l'opposition et le pouvoir en Syrie, c'est pour éviter la continuité de cette vague de démocratisation. On ne doute pas que l'Arabie Saoudite soutiendra une démocratisation réelle pas loin de chez elle et avec une population très impliquée dans la vie interne saoudienne. Il y a plus qu'un million et demi de Syriens qui habitent en Arabie Saoudite. Trouver une solution médiane, ça arrange tout le monde. Et on a bien vu l'implication de l'Algérie en dernière minute pour convaincre le régime syrien et lui donner des gages.
Vous voulez dire à Salem Kawakibi qu'elle a voulu se donner bonne conscience, la Ligue arabe ?
Se débarrasser de cette responsabilité parce qu'elle a pris largement le temps avant de réagir, comme toutes les autres instances internationales, pas seulement la Ligue arabe, en pensant que le régime allait faire le ménage. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour les Syriens, le régime n'a pas réussi encore à terminer avec la contestation pacifique, même s'il a essayé de la transformer en confrontation, la militariser et la rendre communautaire. Il a, pour le moment, échoué dans cette tentative.
Agnès Levallois.
Ce qui est intéressant dans cette initiative de la Ligue arabe, si je puis dire, c'est que sur ce dossier syrien, on s'aperçoit que les acteurs internationaux n'ont pas réussi à intervenir, n'ont pas eu des moyens véritablement efficaces, en dépit des sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne ou par les Américains, et qu'on voit qu'en fin de course, si je puis dire, c'est la Ligue arabe qui s'est chargée d'essayer de trouver une solution, alors qu'on sait très bien que celle-ci n'a jamais réussi à apporter une quelconque solution, un quelconque conflit dans la région. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir l'embarras de cette communauté internationale face à cette question syrienne. Souvenez-vous, il y a eu ces tentatives de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui n'ont pas pu aboutir en raison du veto russe et chinois. En même temps, ces mêmes Russes et Chinois, on les a vus émettre des critiques à l'égard du régime de Bachar el-Assad récemment, en disant que quand même celui-ci devait entreprendre des réformes. Et face à l'absence de réaction de la part du régime, on voit bien que c'est ces deux pays, la Russie et la Chine, sont quand même gênés, puisque comment d'un côté peuvent-ils soutenir ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, et d'un autre côté laisser le massacre s'opérer à l'égard de civils qui manifestent pacifiquement dans les rues de Syrie. Donc on voit bien que face à cette complexité et à cette incapacité de la communauté internationale à se mettre d'accord, alors que celle-ci a pu émettre des avis et prendre des positions communes sur les révolutions précédentes, tout d'un coup, on voit la Ligue arabe, effectivement, qui réinvestit d'une mission dans cette affaire et avec un rôle, je crois quand même qu'il est important de souligner, qui est le rôle du Qatar, qu'on a vu aussi émerger dans l'affaire syrienne, après l'avoir vu émerger sur le dossier libyen, puisque le Qatar a apporté une caution arabe lors de l'opération militaire contre la Libye, et on sait que le Qatar s'est beaucoup investi sur le dossier libyen. Donc là, on est face à un nouvel acteur, ou un acteur en tous les cas, qui veut être de plus en plus actif sur la scène diplomatique régionale moyenne-orientale, et qui s'empare aussi de ce dossier syrien pour avoir cette existence. Mais là encore, comme le disait très justement Salam, la grande difficulté, le problème de crédibilité de cette Ligue arabe, c'est qu'elle est représentée par un certain nombre d'États qui, eux, n'ont pas du tout envie de voir chez eux des mouvements de démocratisation. Donc comment peuvent-ils permettre une médiation crédible entre l'opposition et le régime, alors qu'eux-mêmes sont absolument incapables de pouvoir envisager un quelconque mouvement de démocratisation chez eux? N'oubliez pas l'intervention saoudienne à Bahreïn, qui est quand même significative de cette absence de volonté d'ouverture sur l'ensemble de la région.
Mohamed Makhlouf.
Écoutez, moi je suis d'accord avec les deux, vraiment. Mais il y a une chose à dire aussi. À mon avis, mon ami Salam, il a évoqué plusieurs choses. On a évoqué le rôle de l'Iran, on a évoqué l'Arabie Saoudite. Et vous avez dit une phrase, c'est la Ligue arabe comme coquille vide. Mmh. Je suis absolument d'accord, mais il faut pas oublier que cette coquille vide, c'était derrière l'intervention en Libye. C'est un lieu de passage obligé pour une intervention militaire internationale, s'il y aura lieu. Parce que maintenant, qu'est-ce que ça va passer? À mon avis, c'est très simple. Ou bien Assad va appliquer l'initiative arabe et c'est la fin de son régime, franchement, à mon avis. Ou bien il va pas appliquer et je penche vers cette option. Il va pas appliquer. C'est la nature du régime syrien. C'est difficile d'appliquer cela. Mais au cas de l'échec, la Ligue arabe, ça, elle va être très claire. Écoutez, nous avons échoué. On va envoyer, transférer le dossier vers les les Nations Unies. Vous savez, à mon avis, l'enjeu est là.
Vous pensez que le dossier va se reporter à nouveau sur l'ONU, va se recentrer sur l'ONU?
Absolument. S'il y aura un échec, à mon avis, ce sera l'argument principal pour transférer le dossier vers les Nations Unies. Et, madame, vous avez évoqué, ou bien, je ne sais pas, c'est très important, sur la Russie et la Chine. Écoutez, dans ce cas-là, le rejet, c'est-à-dire le menace de veto chinois ou russe, ça va diminuer. Nous avons proposé à Assad une solution, il n'a pas voulu. Alors, l'argument chinois ou bien russe, ça va être diminué malgré, on va peut-être en parler dans notre émission, et les choses sont beaucoup plus loin pour la Russie, parce que la Russie, elle est derrière, à mon avis, la Turquie, et quand même l'empêchement de la Turquie d'aller plus loin, il y a des choses dans l'Asie centrale, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je pense, en deux mots seulement, que la Ligue arabe peut servir, au cas de l'échec, comme un passage obligé vers les Nations Unies.
Une sorte de tremplin, Salam Kawakibi.
Je crois que tout le monde veut maintenant croire à la bonne volonté des uns et des autres. Et même l'opposition syrienne, sous toutes ses formes, a émis des avis favorables, avec beaucoup de doutes, mais des avis favorables. Le Conseil national, il a dit, il faut voir comment ça va être appliqué, si le plan va être respecté.
Avis favorable au plan arabe, c'est
bien ça? Au plan arabe. En ayant l'assurance que le régime ne l'appliquera pas dans leur inconscience ou leur conscience. L'instance nationale de coordination nationale, encore une autre formation de l'opposition, a émis un avis encore plus favorable. Le courant de la reconstruction de l'État syrien, aussi une formation d'opposition basée à Damas, elle a accueilli très favorablement l'accord. Même, et là je souligne avec trois lignes rouges, l'armée syrienne libre, qui représente les 13 000 ou 15 000 soldats qui ont fait défection, ont publié un communiqué disant qu'ils vont cesser le feu directement à condition que le régime aussi respecte le cessez-le-feu. Alors je trouve que tout le monde, du côté du peuple, essaye de montrer à la communauté internationale et à la communauté arabe aussi que le régime ne respectera pas ses engagements, et les jours vont rapidement démontrer cela.
Donc volonté de décrédibiliser totalement le
de mettre
le
devant
régime.
Ses responsabilités.
Agnès Levallois.
Oui, je crois qu'il y a une chose qui est importante, et les différents propos qui viennent d'être tenus le démontrent, c'est que tout le monde est très embêté par la situation en Syrie. Et la communauté internationale au premier chef, qui est incapable de faire quelque chose et qui assiste impuissante, si je puis dire, au massacre du civil depuis maintenant 8 mois.
Et donc, avec un bilan très lourd.
Avec un bilan extrêmement lourd.
3000 morts selon l'ONU.
Et sûrement plus, puisqu'on ne fait référence qu'aux morts, j'allais dire, avérées. Hein. Donc il est probable qu'il y ait beaucoup plus de morts que le chiffre annoncé officiellement. Donc on voit bien que cette communauté internationale, qui après est intervenue de façon significative en Libye, c'est le moins qu'on puisse dire, assiste quand même impuissante, en dehors des quelques sanctions qui ont été prises, et pourquoi pas, et heureusement qu'elles ont été prises, mais on voit que cette communauté internationale est incapable d'agir. Donc on voit bien que dès qu'il y a une initiative ou quelque chose qui émerge, tout le monde a envie de s'accrocher à cela en se disant qu'on va peut-être trouver enfin une solution et qu'on va arrêter surtout cette extrême violence qui est en train de détruire ce pays et qui fait apparaître de plus en plus un risque de guerre civile. Et donc tout le monde a très peur évidemment de cette évolution de la situation dans ce sens-là. Donc je crois que tout le débat qu'il y a actuellement autour de ce plan de la Ligue arabe se résume à cela. C'est-à-dire qu'on a envie d'y croire, hein, on a envie de se dire qu'il va y avoir une possibilité, une issue pour arrêter ce massacre, parce que tout le monde se sent quand même parfaitement impuissant face à cette situation. Et je trouve que ce que nous disons là aujourd'hui révèle très clairement cela. Donc on émet des réserves, l'opposition évidemment demande à voir, donc elle ne va pas rejeter ce plan, bien évidemment, elle a l'intelligence de l'accepter, mais simplement en disant, on va quand même être très vigilant pour savoir ce qu'il en est. Effectivement, dans ce cadre-là, le fait qu'il n'y ait pas de comité de suivi, un mécanisme de suivi, est un peu inquiétant sur, la réalité de ce que peut être ce plan, à mon avis.
Alors ce mécanisme de suivi qui n'est pas en place, on l'a dit, mais il peut-être apparaître à la demande de l'opposition syrienne, voire de la communauté internationale, Salam Kawakibi.
Je crois que ça va bloquer déjà très vite, parce que le régime syrien, par via sa propagande, explique que le dialogue national, ce qu'il appelle lui le dialogue national, aura lieu à Damas. Et ça n'a pas été dit ni par le secrétaire général de la Ligue arabe, ni sera accepté par l'opposition, parce que tout le débat, c'autour du lieu.
Dialogue national qui serait la deuxième étape. D'abord, l'accord et la mise en place. Voilà.
Dialogue national, c'est-à-dire, ils ont mis 15 jours pour le tenir. L'opposition propose le Caire, et comme la Ligue arabe l'a déjà proposé. On va entrer dans un débat là-dessus aussi. L'opposition, je crois qu'elle a intérêt maintenant à mieux s'organiser, à unifier sa position, même s'il y a des divergences entre les modérés, les moins modérés, les radicaux, les moins radicaux. Mais maintenant, devant le plan arabe, il faut vraiment avoir une grande responsabilité et d'assumer le rôle que les Syriens attendent de cette opposition. De l'autre côté, la suivi proposée par le ministre qatari, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pendant la conférence de presse, se limite seulement à que la réunion de ministres va être toujours en cours. On sera là pour suivre. Il n'y a pas un mécanisme clair, comme toutes les organisations internationales. Il y a que les ministres vont poursuivre ce qui va se passer ces prochains jours. Et il faut savoir aussi la composition de ce conseil de ministres choisi. Il y a le Qatar, après il y a le Soudan, l'Algérie, Oman. Quand on voit le rôle que a joué le ministre algérien des Affaires étrangères en dernière minute, parce que les négociations ont été presque échouées entre la Ligue et le régime syrien. Et en dernière minute, il y a eu une intervention et c'est là où on doit
basculer un peu les choses.
On doit peut-être attendre pour savoir ce qui s'est passé, quels ont été les messages et les garanties qui ont été proposées au régime syrien par le ministre algérien. Et là, tout le monde est devant sa responsabilité. Et je doute fort que le Soudan ou l'Algérie s'inquiètent beaucoup par rapport à l'avenir de la démocratie en Syrie.
Alors, pour terminer cette première partie, Mohamed Makhlouch, je me tourne vers vous. Vous disiez tout à l'heure que le président Bachar al-Assad, ce que vous disiez tous d'ailleurs, cherchait à gagner du temps. Gagner du temps, pourquoi faire ?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là, franchement. Pas seulement il cherche à gagner le temps. Il y a une chose, à mon avis, beaucoup plus profonde que cela. L'initiative arabe, à vrai dire, c'était ce que l'opposition, depuis 6 mois, a formulé. Mmh. Le retrait de l'armée des villes, libérer les prisonniers politiques. Et c'était plutôt vraiment l'opposition syrienne, l'opposition démocratique d'antan, avant qu'on avait le Conseil national syrien et où il y avait le Comité national de coordination pour le changement démocratique, comment on l'appelle. C'était avant. Maintenant, elle a accepté. Et le problème, à mon avis, maintenant, c'est il y a une erreur grave, même fatale, pour l'opposition. À mon avis, l'opposition doit parler une seule voix.
Oui, c'est le grand problème de l'opposition syrienne d'être désunie.
Une seule voix. Parce que si aujourd'hui, le Conseil dit « nous voulons ça » et les autres disent « nous voulons autre chose », à mon avis, c'est le régime qui est gagnant. C'est le régime qui a réussi. Nous ne sommes pas maintenant au stade de discuter quelles sont les modalités d'appliquer l'initiative. On n'est pas là. On est maintenant, est-ce que ce régime va accepter ou non? Est-ce qu'il va appliquer ce qu'il a accepté? J'ai beaucoup de doutes, il ne va pas appliquer, pour moi. Mais, encore c'est grave pour lui. Pourquoi? Il a accepté dans ce cas-là. Gagner 2 semaines, mais il va se mettre nu devant la communauté internationale. Attendez, maintenant, on doit attendre peut-être 2 jours, 2-3 jours pour voir. Il n'y avait pas dans l'histoire une initiative ou bien un accord qui a été appliqué tout de suite. Vous savez, c'est comme ça. Seulement, je voudrais
Très rapidement.
Je voudrais signaler une petite chose. Pour l'intervention internationale, est-ce que c'est une impuissance ou bien c'est manque de volonté? Peut-être on va discuter cela après.
Dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique, le débat consacré à la Syrie. Nous retrouvons nos invités Agnès Levallois, Mohamed Makhlouch et Salam Kawakibi dans quelques instants. À tout de suite.